On parle souvent de vaincre, et pour vaincre, vous devez savoir ce que vous êtes aux yeux de Dieu. On va lire 1 Jean 5, versets 4 et 5. 1 Jean 5, 4 et 5. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Comment être vainqueur dans notre vie, dans nos circonstances, nos difficultés? Et il y en a des difficultés, tous les jours. Eh bien, il nous faut réaliser que Dieu nous donne beaucoup de choses, mais on n'en profite pas. Alors que nous avons tout pleinement en Christ. Premier don que Dieu nous donne, première chose à savoir, c'est 2 Corinthiens 5, verset 17. Très connu. Si quelqu'un entre en communion vivante avec Christ, il devient un homme ou une femme nouvelle. Il est recréé, l'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Premier don que Dieu nous donne, c'est qu'on devient de nouvelles créations, de nouvelles créatures. Parce que Christ est crucifié, a été enseveli, et nous, nous sommes aussi morts avec lui, aussi ensevelis avec lui. Et il est ressuscité, et nous aussi, on est ressuscité en nouveauté de vie. Notre vie ancienne se termine au moment où nous mourons avec lui et au moment où on est enseveli. Né de nouveau, voilà, c'est ça, nouvelle création, nouvelle naissance. Nous sommes de nouvelles créatures. On doit vivre une vie nouvelle. Toutes choses sont devenues nouvelles, que la parole nous dit. Quoi ? Les affections, les motivations, les pensées. Ça, c'est difficile, les pensées. Qu'est-ce que ça trotte dans la tête, hein ? Les espérances, ou l'espérance, la vie entière en réalité. Nouvelle création, nouvelle race, nouvelle possibilité. Tout devient possible en étant une nouvelle créature. Nous ne pouvons pas vivre du passé, mais souvent on est dans le passé, hein. Et on ne jouit pas du présent et on se fait du souci pour l'avenir. Donc en réalité, on ne vit pas comme une nouvelle créature. Combien d'entre nous vivent dans le passé? Oh, j'ai vécu ça dans le passé, c'était formidable. Oh, demain, ça va être ceci, puis aujourd'hui, la journée a passé, puis on n'a rien fait, rien vu. Nous vivons souvent comme avant notre rencontre avec le Christ, mais pas dans tous les domaines, seulement dans certaines attitudes, mentalités. Nous sommes des nouvelles créatures avec de vieilles têtes. Ben oui! La tête bourrée de vieilles idées. Qui c'est qui n'a pas des vieilles idées, des vieilles pensées, qui pense comme avant d'avoir rencontré Christ? Moi, le premier. On doit décider de marcher en nouveauté de vie. Si on ne décide rien, il ne se passe rien. Il y en a qui sont forts pour décider de ne rien décider du tout. Ben, c'est plus facile, hein? Défense de parquet devant nos échecs, nos insuccès. Parce que ça, c'est la vieille créature qui parquait devant, qui s'arrêtait, qui... mon nombril, bon, il est caché parce que le ventre est gros, mais bon. Mais interdit de rester sur cette position. On a chanté avant. Le Seigneur fait tout. Il nous donne tout. Nouvelle création. Un être créé avec un niveau d'excellence qualitativement différent. Mais beaucoup d'entre nous se rabaissent. « Oh, je ne suis pas capable. Pour Dieu, il n'y a pas d'incapable. On peut rayer le mot « un ». Pour Dieu, on est tous capables. Ce terme renvoyait à la régénération ou la nouvelle naissance. Cette régénération, cette nouvelle naissance comprend le pardon des péchés par le prix le Christ a payé pour nous, on l'a chanté. Il a tout accompli. Il n'y a rien à rajouter, rien à retrancher. Mais comme on est tellement anciennement dans nos vieilles pensées, on retranche des choses. On rajoute parce qu'il semble que Christ n'a pas tout accompli. Non, tout est accompli. Il nous a tout donné. Alors saisissons que l'on est des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Tout ce qui appartient à l'ancienne vie, le système des valeurs, les priorités, les croyances. Qu'est-ce qu'on en a des croyances, hein? Bon, moi qui n'ai pas été élevé dans la foi chrétienne, j'en avais pas beaucoup, je croyais en rien. Mais pour ceux qui sont élevés dans une foi chrétienne, catholique ou que sais-je, pour les musulmans aussi, c'est difficile. Parce qu'on a tellement, on nous a tellement rabâché de choses que le cerveau, il est lavé, hein. Mais comme le Seigneur nous donne un nouveau cerveau, une nouvelle vie, donc, ces vieilles choses doivent disparaître. Tout ce qui a les priorités, les passions, les projets aussi. Ça, c'est pas évident, hein. Qu'est-ce qu'on en fait des projets? Oui, il faut en faire. Mais si Dieu veut, ça, c'est autre chose. Ça doit disparaître chez une personne régénérée. Le mal et le péché sont toujours présents. Mais le croyant ou la croyante les considère selon une perspective nouvelle. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de pouvoir sur nous. On n'est plus livré au péché. On ne vit plus pour le péché. Ça ne veut pas dire qu'on ne pêche plus. Mais on a un avocat auprès du Père qui intercède pour nous, qui nous porte dans la prière. On est des nouvelles créatures, et ça c'est Christ qui l'accomplit. Toute chose nouvelle, la formulation grecque, là je ne sais pas ce qu'elle est, parce que je ne l'ai pas noté, c'était tellement compliqué, implique que cet nouvel état de vie est permanent. Ce n'est pas un moment puis c'est fini, c'est tout le temps. C'est permanent, on est une nouvelle création parce qu'on est ressuscité avec Christ. La nouvelle approche spirituelle à laquelle le croyant perçoit toute chose est une réalité constante pour lui. Il vit, on vit maintenant pour l'éternité et non plus pour le monde, non plus pour les choses temporelles. Jacques identifie cette transformation à la foi que produit les œuvres. Premier point, nous sommes une nouvelle création. Deuxième point, nous sommes aimés. Jean 3, verset 1. Voyez à quel point le Père nous a aimés. Son amour est tel que nous sommes appelés enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes réellement. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas connu Dieu. Cette pensée que Dieu nous aime suggère l'amour merveilleux que nous avons reçu en étant nés de nouveau et en devenant ainsi des enfants de Dieu. Et nous le sommes, la parole nous le rappelle. Enfants de Dieu, il n'y a pas de plus grande gloire que d'être connus comme des enfants du Fils du Roi des Rois. Souvent, on entend parmi nous, il faut le dire aux inconvertis que Dieu les aime. Oui, c'est juste, tout à fait. Mais confessons-le entre nous aussi, pour nous, plus souvent, Dieu vous aime, Dieu m'aime. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Et il nous aime tel que nous sommes. Il y a un chant qui nous le rappelle, hein? Tel que je suis bien vacillant, oui, ça c'est vrai, en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans. Je ne veux pas tout le cantique, mais ça, c'est le principal. Tel qu'on est, beau ou pas beau. Ouais, là, physiquement, c'est pas ça, hein. Parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Moi, j'aimerais avoir moins de ventre, un autre, il aimerait avoir un peu plus, enfin, que sais-je, les cheveux. Moi, je dis toujours à ceux que je vois qui ont un ventre, je dis bienvenue au club de ceux qui se laissent pousser le ventre. Les autres, c'est les cheveux. Bon, ben, ma fille, voilà. Non. Il y a tout, Dieu m'aime tel que l'on est. Est-ce possible que Dieu m'aime, malgré mes manquements, mes difficultés, etc., etc., mettez tout ce que vous voulez. On est tortu. La parole nous le rappelle, on a un cœur tortueux par-dessus tout. C'est à nous qu'il le dit, ce n'est pas aux gens du monde. Mais l'ennemi, il est derrière. Il ne peut pas t'aimer, ce n'est pas possible. Tu as vu comme tu es, tu as vu ce que tu as fait, tu as vu ce que tu as dit, tu as vu, tu as passé un témoignage, tu ne t'es pas arrêté, tu y as pensé seulement après coup. Donc, tu vois, Dieu ne peut pas t'aimer. Et on écoute, on oublie qu'on est une nouvelle créature. On oublie que Dieu a payé le prix. Dieu nous aime en tant que personne, mais il n'aime pas notre orgueil. Ça, c'est vrai. Il n'aime pas ce que l'on est, ce que l'on veut faire, mais il nous aime parce que Dieu, parce que Christ a offert sa vie. C'est la vérité fondamentale de l'Écriture, c'est s'aimer les uns les autres. Il le dit, le premier commandement, c'est d'aimer Dieu tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Et le second qui est pareil, aime ton prochain comme toi-même. Qui c'est qui se déteste? Oh, il y en a quelques-uns qui ne s'acceptent pas comme ils sont. Bon, d'accord, mais en général, on s'aime bien. Hein? On fait tout pour que ça aille. Et si on n'aime pas les autres, c'est parce qu'on ne s'aime pas soi-même, très souvent. On n'accepte pas sa position. Matthieu 22, 36 à 40 nous dit, « Maître, quel est dans la loi le commandement le plus important ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu tout ton cœur, je l'ai dit, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toutes tes forces. Ben, » si c'est nos forces à nous, c'est clair, on a de la peine, mais de toutes les forces que Dieu nous donne. C'est là le plus grand et le tout premier commandement. Mais il y en a un deuxième qui est tout aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes se résume dans ces deux commandements. C'est simple, hein? Oui, à dire. Mais parce qu'on fait de nous-mêmes, on veut aimer les autres de nous-mêmes. Alors ça, c'est difficile. Parce que où est cette tête qu'il a, celui-là? Oh, c'est pas possible. Comment est-ce que je peux faire? Non. Demandons l'aide au Seigneur. Donne-moi la force d'aimer cette personne. Tu vois, je n'ai pas d'atome crochu. C'est vrai, on a des personnes quand on a des atomes crochus, d'autres pas. Mais Dieu, donne-nous la force de l'aimer tel qu'il est. Puisque toi, tu l'aimes tel qu'il est. Pourquoi moi, je voudrais qu'il soit comme ci, comme ça? Bon. Mais ça, c'est notre vieille tête. Vous supportez. Oui, je pense que vous supportez encore quelque temps. Puis même si vous ne supportez pas, je le ferai quand même. Voilà. Ça, c'est la vieille tête qui parle. Troisième point, c'est qu'on est délivré. Colossiens 1, 12 et 13. Remerciez avec joie Dieu le Père. Il vous a rendu capable d'avoir bien, part au bien qu'il réserve dans le royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. Il nous en a fait arracher à la puissance de la nuit et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Pour jouir du ciel, il faut une attitude particulière. C'est vrai. Même nous qui croyons au Seigneur Jésus, nous n'avons pas par nous-mêmes, nous n'avons par nous-mêmes aucun droit de jouir du ciel. Je l'ai bien dit, par nous-mêmes. Le seul titre de gloire que nous ayons se trouve dans la personne du Seigneur. On doit s'appuyer sur son mérite et ne pas avoir d'autre appui que lui. Et le Seigneur nous le dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce n'est pas qu'il n'y a rien à faire, mais on ne peut rien faire sans lui. Lorsque Dieu sauve quelqu'un, il lui accorde immédiatement l'aptitude de jouir du ciel, l'aptitude qui est en Christ. Rien ne peut l'améliorer, cette aptitude. Même une longue vie d'obéissance et de service sur terre ne peut rendre quelqu'un plus digne du ciel qu'il n'était avant le jour de son salut. Notre titre de gloire est le sang de Jésus-Christ. Alors que l'héritage se trouve dans la lumière et qu'il est réservé au ciel. Nous, croyants sur la terre, nous avons reçu le Saint-Esprit. Garantie de notre héritage. Il dit qu'on est héritier, co-héritier de Christ. Nous pouvons donc nous réjouir de ce qui nous attend. Parce qu'on n'a encore pas tout. Il y a encore beaucoup de choses qui nous attendent. On a déjà reçu beaucoup, mais il y a encore beaucoup plus qui nous attend. Et ça, ce n'est pas pour maintenant. Tout en savourant déjà les premiers fruits de l'Esprit. On les savoure déjà sur terre. Vous direz, oui, mais l'ennemi nous attaque. Ah ben oui, c'est son rôle. Hein. On dirait qu'il n'a que ça à faire. Hein. Oui, c'est parce qu'on le laisse faire. Parce qu'il est dit, l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui se laissera, diversion, qui se laissera attraper. Vous êtes libre, on est libre, et on agit comme si on était encore des esclaves. Alors que c'est Satan qui est un esclave. Et il agit comme un homme libre. Ça, c'est la confusion. Si vous avez des chaînes encore, des problèmes, etc., confessez votre liberté. Nous sommes réellement libres en Christ. Ne nous mettons pas sous un joug. La parole nous le rappelle. Ça fait 2000 ans qu'on était libérés, même plus. Et ceux qui disent « je ne suis pas encore libéré » sont en retard. Jean 8, 32 nous dit « Ainsi vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Si le Fils vous libère, vous serez vraiment libre. » Quatrième point, nous sommes vainqueurs. Je suis un vainqueur, vous êtes une vainquesse, non? Comment est-ce qu'on dit pour une vainqueuse? Oui, enfin bref, on est vainqueur, voilà. 1 Jean 4, 4 nous dit « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu ». Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Romains 8, 37 nous dit, mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Celui qui est en vous, qui est en moi, qui est en nous, est plus grand que tout. Les croyants doivent être conscients de l'existence d'enseignements erronés au jour d'aujourd'hui. Il y a beaucoup d'enseignements faux qui circulent. Et se tenir sur nos gardes. Mais sans pour autant être effrayé, parce que Christ est en nous et on est vainqueur de toutes ces choses. En effet, ceux qui sont passés par l'expérience de la nouvelle naissance jouissent de la présence du Saint-Esprit. Il nous a dit, c'était avantageux que je parte et que vous avez un autre, un paraclet, un autre comme moi-même, et il le prendra tout ce qui est à moi et vous le donnera. Donc, on peut dire qu'on a un détecteur de doctrine intégrée qu'on a reçue. Et c'est vrai, si on se confie au Saint-Esprit, si on lit la parole, bien entendu, parce que ça ne suffit pas de se confier au Saint-Esprit, il faut lire la parole et le Saint-Esprit nous confirme la parole. Et vraiment, on sent les mauvaises doctrines, on les repère, je ne veux pas dire du pif, non, parce qu'on est dans la parole. Et la parole, on sait que c'est la vérité nous a franchis. Le Saint-Esprit nous conduit dans la saine doctrine. Les chrétiens véritables, ceux qui se confient en Christ, pas ceux qui sont toujours sur deux ballons, puis qui ne se sont pas engagés, qui ne sont pas nés de nouveau. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se disent chrétiens. Mais chrétien, c'est quoi? C'est être disciple du Seigneur. L'avoir accepté comme son Seigneur, son Sauveur, son Maître, son Roi. Être chrétien, c'est facile. Parce qu'on est dans des pays christianisés. Oh, j'ai reçu 2-3 gouttes d'eau sur la tête quand j'étais petit. Et puis après, j'ai fait la Sainte Cène quand j'avais 16 ans. Et puis après, bon, ben, j'aurai 2-3 gouttes sur mon cercueil ici un jour. Ben voilà. Mais ça, ce n'est pas être chrétien. C'est vivre avec Christ, la vie de Christ, comme on l'a vu tout à l'heure. On n'a rien à craindre si on est de vrais chrétiens qui sont consacrés à Dieu. Car même l'armée de Satan, avec toutes ses perversions, ne peut nous arracher de la main de Dieu. La garantie du salut. Me voici, moi et ceux que tu m'as donnés, je n'en ai perdu aucun. Nul ne peut nous ravir de la main du Seigneur. Il y en a qui disent, oh, mais je peux perdre mon salut. Ta confiance en qui? Si c'est sur toi, c'est clair, il n'y a rien. Si c'est dans une église, c'est clair, il n'y a rien. Si c'est dans une doctrine, il n'y a rien. Mais c'est Dieu qui nous tient dans sa main. Notre salut ne dépend pas d'une doctrine, d'une théorie, mais de Jésus-Christ qui est vivant, qui est à la droite de Dieu et qui intercède pour chacun de nous. Donc, son œuvre est parfaite. Ce n'est pas à nous de dire ceci, cela, non. Si on fait confiance à Dieu, sa parole est la vérité, et la vérité nous a franchis. Et le poids part, parce que c'est vrai que si on regarde à nous, il y a du boulot. Je suis vainqueur sur tout ce qui me tourmente, sur tout ce qui nous tourmente, sur les apparences. Il n'y a rien à faire, c'est déjà fait. La victoire est déjà acquise une fois pour toutes à la croix. Jésus a vaincu l'ennemi, mais ce n'est pas pour lui qu'il l'a fait, c'est pour nous. Rappelons-nous ceci, que ça rentre dans nos caboches. Jésus a vaincu l'ennemi pour nous, parce qu'il sait qu'on a des vieilles têtes encore, même quand on a de nouvelles créatures. Cinquième et dernier point ouf, je suis béni, nous sommes bénis. Éphésiens 1, verset 3. « Béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, comme on a dit avant, dans le ciel. En Christ, les bénédictions sont surabondantes. Les bénédictions n'appartiennent qu'à nous, ses enfants. Par la foi en Christ, ainsi ce qu'on possède est acquis, y compris sa justice, c'est pour nous. » Ses ressources, ses privilèges, sa position, sa puissance, il l'a déployé pour nous. Vous rendez compte? Pour nous. Béni, Dieu dit du bien de nous. Et moi, des fois, je dis du mal d'un frère, d'une sœur. Parce qu'avec cette langue-là, ça va vite. Hein. Peu importe ce que les gens disent de nous, si Dieu dit du bien de nous, ce que les autres pensent, ça n'a pas d'importance. Mais on donne beaucoup trop d'importance à ce que les autres disent et pensent de nous. Vous me direz, Dieu dit quoi de bien de nous? Eh bien, c'est ces cinq premiers points qu'on vient de voir, qu'on est une nouvelle créature, c'est du bien, qu'on est aimé de sa part, qu'on est délivré, qu'on est vainqueur et qu'on est béni. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus? Mais je vais prendre encore 5 minutes, parce que chaque fois, qu'il y a une bénédiction, il y a aussi un obstacle. Chaque fois qu'il y a une victoire, il y a quelque chose derrière. On dirait qu'il y a un géant. Et béni, j'avais encore noté dans le dictionnaire, ce verbe a 3 significations essentielles, bénir. 1, accorder la faveur divine et octroyer des grâces. Ça, c'est le Larousse. 2, adorer Dieu pour sa bonté, lui rendre grâce, le louer. Et 3, invoquer la faveur divine sur une personne. C'est ça, bénir dans le dictionnaire. Alors là, je vais faire très court, parce que comme c'est des choses négatives, on ne va pas s'attarder dessus. Mais il faut quand même les rappeler. Et il y a 5 bénédictions, il y a 5 obstacles à ces bénédictions. La première se trouve dans Josué 18, verset 3. Josué dit aux enfants d'Israël, « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays ?» que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné. La négligence. La négligence, c'est une attitude, état d'une personne dont l'esprit ne s'applique pas à ce qu'elle fait ou devrait faire. Ne vaut pas la peine qu'on en tienne compte. Et moi, je dis qu'ils négligeaient ce que Dieu leur avait donné, et c'est le péché du peuple de Dieu. Mettons en pratique ce qu'il nous donne. On est de nouvelles créatures, et la négligence va avec ça. On néglige qu'on est de nouvelles créatures. Alors, il donne à chacun un talent. Et comme j'ai dit avant, il n'y a pas d'incapable. On est tous capables en Christ. Deuxième obstacle, c'est l'indifférence. Ça va avec « je suis aimé ». Je suis indifférent que Dieu m'aime. Est-ce que c'est possible qu'on est indifférent? Ah, ça arrive. On a tellement de choses qu'on compte sur le matériel. Et puis, qu'on ne se rappelle plus ce que Dieu nous donne. L'indifférence, c'est l'état d'une personne qui n'éprouve ni douleur, ni plaisir, ni crainte, ni désir, insensible, blasé, froid. Ça arrive quand on devient comme ça. Alors ne soyons pas indifférents à savoir que nous sommes aimés. Certaines personnes sont satisfaites d'elles-mêmes. Elles sont tellement humbles que ça les justifie de désobéir. Non, ne soyons pas à ce point-là. Troisième, c'est les plaisirs du monde qui prennent la place de Dieu. Va avec délivrer. Il ne faut pas que les plaisirs du monde prennent la place de Dieu. Au contraire, c'est lui qui doit être en première place. Ce que Dieu nous donne n'est pas à comparer avec ce que le monde donne. Vous êtes d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, je vous le redis quand même. Quatrième, l'influence des autres va avec « je suis vainqueur ». Beaucoup sont arrêtés ou se sont arrêtés parce que les autres disent ou pensent d'eux. On doit accepter d'être influencé par les gens seulement qui nous rapprochent du Seigneur. Uniquement, c'est eux qui doivent nous influencer, pas le reste du monde. Parce que de toute façon, le monde est ennemi de Dieu. Dernier point, le manque de persévérance et de courage va avec « je suis béni ». Quand tout ne va pas comme on pense, comme je pense, on s'arrête. Rappelons-nous que derrière chaque victoire, il y a un géant. Un vainqueur, ce n'est pas celui qui n'a pas de défaite, mais un vainqueur, c'est celui qui refuse la défaite. Si vous êtes tombé, relevez-vous, le Seigneur vous relevera. Et on termine par Proverbe 24:16, car le juste pourra tomber 7 fois, il se relèvera, tandis que les méchants perdent pied dans le malheur. Que le nom du Seigneur soit béni pour ces 5 points qu'il nous donne, qui sont Amen. Et merci Seigneur, que son nom soit béni.